Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal grâce à Mzati.
Lutte contre le terrorisme dans les continents africains. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra propose notamment une meilleure coordination des renseignements et une interaction des outils de défense. Les États-Unis d'Amérique s'attendent à l'organisation des élections crédibles, transparentes et inclusives en RDC. C'est en tout cas la question au cœur des échanges hier à Kinshasa entre le président de la République Félix Tshisekedi et la secrétaire d'État adjointe par intérim Victoria Nuland. L'invité de ce journal est Mira Mulumba, président de l'Association nationale des victimes du Congo qui appelle à l'allocation des fonds en faveur des victimes. Mesdames et messieurs, bonjour. Il faut une réponse stratégique régionale, une meilleure coordination des renseignements et une interaction de nos outils de défense pour faire face aux défis sécuritaires auxquels est confronté le continent africain, notamment le terrorisme. Déclaration hier à Kinshasa du président centrafricain, le professeur Faustin Archange Touadéra. C'était à l'occasion de la remise par le président Félix Tshisekedi des brevets à 245 auditeurs de la 8e session ordinaire, 6e session spéciale du Collège des hautes études, des stratégies et des défis. France et à la 6e promotion de l'École supérieure d'administration militaire. Le président centrafricain parrain de la 8e session ordinaire du CHEST salue l'apport de cette académie militaire qui rend aptes les officiers africains pour défendre la démocratie et la paix. On écoute Faustin Archange Touadéra dans ses propos recueillis par Alain Irung.
Notre région d'Afrique centrale, je dirais notre continent, connaît des convulsions douloureuses provoquées par le terrorisme, la criminalité transfrontalière, les trafics illicites des armes et de la drogue, la cybercriminalité, la piraterie maritime. Pour faire face à ces défis sécuritaires, il nous faut une réponse stratégique régionale, une meilleure coordination des renseignements et une interaction de nos outils de défense. Dans cette veine, le Collège des hautes études de stratégie de défense de Kinshasa est un bel exemple de l'esprit de solidarité et de coopération dans la recherche de solutions aux défis sécuritaires qui minent le développement de notre continent et particulièrement de notre région. En cela, je tiens à saluer la diversité des pays représentés dans cette promotion, ainsi que la qualité des formations dispensées, qui rendent nos officiers plus aptes à répondre aux défis de plus en plus protéiformes qui se posent à nos pays.
Notez que ces lauréats du CHEST viennent de la RDC, du Congo-Brazzaville, de la Centrafrique, du Bénin, du Cameroun et du Burundi. Pendant ce temps, 2 morts, 1 véhicule et des dizaines de maisons incendiées ainsi que les déplacements de la population, c'est le bilan provisoire des 3 attaques successives des rebelles des ADF depuis mardi dans les localités de Lomalissa et Bandibouane, à une 30aine de kilomètres de Mambasa centre. Nous sommes dans la province de l'Ituri. Selon la nouvelle société civile du territoire de Mambasa qui donne ses bilans, l'activisme de ces groupes armés dans la zone crée une psychose, notamment à Mambasa centre. 2 autres attaques de ces rebelles sont signalées vers Ndalia. Isaac Raymond.
Un groupe de rebelles des ADF ont fait incursion ce jeudi matin à Bandibouane, à 32 km de Mambasa centre. Ils ont incendié un véhicule et blessé par balle les chauffeurs, déclare la nouvelle société civile de Mambasa. John Vuleverio parle d'un bilan provisoire en attendant les rapports de ses collaborateurs sur ces drames. Il ajoute que ces rebelles se sont également introduits mardi et mercredi dernier dans la localité voisine de Lomalissa. Des civils ont été tués, un soldat des FARDC blessé et des maisons incendiées. Les dégâts ont été limités grâce à l'intervention des forces loyalistes qui ont repoussé ces rebelles, dont l'un a été neutralisé pendant les échanges de tirs. Il y a une semaine, un autre groupe de ces rebelles a fait incursion à Manya, village situé à 15 km de Mambasa centre. Ces attaques à répétition créent une psychose à Mambasa. La nouvelle société civile lance un appel au gouvernement pour stopper l'avancée de ces rebelles qui fuient la pression militaire sur l'axe Komandaluna. John Vuleverio.
Demandons ainsi aux autorités de renforcer les positions qui sont sur la route nationale numéro 4 pour permettre à ce que ceux-ci traquent réellement les ADF et entrer même dans la profondeur de la forêt où se trouveraient leurs bastions pour mettre fin à cette situation de sécurité.
Des civils ont été également tués et un militaire blessé mercredi par les ADF vers Ndalia dans les territoires d'Iromo avant d'être repoussé par les FARDC. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Par ailleurs, exposer des corps des victimes des massacres en public amplifie les traumatismes que vivent déjà les populations affectées par les conflits armés au Nord Kivu. Telle est la réaction de certains habitants de Goma à l'exposition des photos montrant des images macabres des corps des victimes au rond-point BDGL. Une exposition cadrant avec la première commémoration de la journée nationale d'hommage aux victimes du génocide des gains économiques Génocost. Pour une des observatrices, ça devrait se faire dans un endroit moins exposé pour le respect des victimes. Hortense Maliro, responsable de l'Association pour l'intégration sociale des handicapés physiques, l'est dit au micro de Bernard Denyangi.
Vous savez que nous sommes une province qui est affectée par ces massacres. C'est-à-dire, nous avons déjà été traumatisés. Et je pense que, à mon avis, ce n'est pas les lieux appropriés pour faire des genres d'exposition. Je vois un panneau où la tête est coupée, l'autre partie du corps de notre côté. Donc des choses horribles qui se passent. Pensez à ces gens qui sont pas à mesure de voir des choses comme ça. Moi, je suis déjà une grande personne, mais je sens cette sensibilité. Maintenant, imaginez les enfants qui passent. Vous voyez la tête est coupée en deux, une partie derrière, et tous ces sangs-là, j'encouragerais que des événements comme ça se passent dans des endroits approprié. Et quand tu vois, c'est ton père qu'on vient d'exposer comme ça, il a été coupé en morceaux. Vous voyez comment, en tout cas, ça me fait des émotions et vous voyez comment ce que ça peut faire.
Cette exposition, qui s'est faite sur initiative du Fonds national des réparations des victimes des violences sexuelles et autres crimes graves, FONAREV, va s'étendre sur une semaine. Je l'ai dit dans les titres, les États-Unis d'Amérique espèrent voir des élections crédibles, transparentes et inclusives en RDC en décembre prochain. C'est la question au centre de l'entretien hier à Kinshasa entre le président de la République et la secrétaire d'État adjointe par intérim et sous-secrétaire d'État aux affaires politiques. Pendant plus d'une heure, Victoria Nuland et Félix-Antoine Tshisekedi passent en revue la situation sécuritaire et humanitaire dans la partie est de la RDC. On écoute Victoria Nuland au micro de Kéline Kouté.
As you head towards a historic election in December.
Et comme nous allons organiser les élections historiques au mois de décembre.
We obviously talked about the importance both in the United States and in the Congo as democracies that we promote and ensure free and fair elections.
Nous avons effectivement échangé sur la nécessité, que ce soit pour nous au niveau des États-Unis, mais également pour la RDC, de pouvoir promouvoir des élections transparentes, équitables.
We want to see all the voices of the people of the Congo heard at the ballot box.
Et nous voulons que toutes les voix de la République démocratique du Congo se dirigent vers les urnes pour voter.
But at the moment, we have confidence that DRC can have a free and fair election if everyone participates.
Nous sommes confiants et nous pensons que les élections en RDC peuvent être libres et équitables si tout le monde participe à ces élections.
Notez que la secrétaire d'État adjointe par intérim et sous-secrétaire d'État aux affaires politiques, Victoria Nuland, va aussi rencontrer la CENI et les représentants des observateurs neutres pour, selon elle, garder un œil sur le travail consistant à organiser des élections libres et participatives. Et puis, présentation officielle hier jeudi ici à Kinshasa de la charte des médias d'information en ligne contre les discours de haine en période électorale. C'était au cours de la journée de plaidoyer et d'appropriation de la campagne de lutte contre les discours de haine initiée par la société NextCore à travers son média actualité.cd. Cette charte réunit un nombre d'engagements pris par les professionnels des médias afin de combattre ces fléaux dans la société congolaise. Plus de détails avec vous, Donna Madimba.
La charte des médias s'appuie sur l'article 5 du code de déontologie du journaliste congolais qui enjoint au journaliste de bannir l'injure, la diffamation, la déformation des faits, le mensonge et l'incitation à la haine religieuse, ethnique, tribale, régionale ou raciale ainsi que l'apologie de toute valeur négative dans la pratique quotidienne de son métier. Le texte de cette charte comprend 6 engagements pris par les médias pour lutter contre les discours de haine en période électorale. Parmi ces engagements, il est prévu notamment de mettre en place des mécanismes pour encourager le signalement effectivement de tout propos haineux sur tous les environnements numériques et de ne pas offrir une tribune aux marchands de haine de tous bords, à savoir les influenceurs ou encore les acteurs sociopolitiques. Cette initiative de NextCorp, la société éditrice de actualité.cd, a été élaborée grâce aux contributions de représentants des médias ainsi que des experts des organisations professionnelles des médias et d'ONG qui soutiennent le journalisme de qualité. Dans leurs interventions, le président de l'Union nationale de la presse du Congo UNPC, celui de l'Association des médias en ligne de la RDC, le directeur pays de Internews ainsi que la directrice de la division de la communication stratégique et de l'information publique de la MONUSCO encouragent les médias à s'approprier cette charte afin de promouvoir la paix, la cohésion sociale et l'unité.
Donna Madimba sur la fréquence de la paix. Restons ici à Kinshasa pour parler de la convocation mercredi dernier par la Commission électorale nationale indépendante de l'électorat pour les élections des députés provinciaux et des conseillers communaux, tel que prévu dans le calendrier électoral. C'est la première fois que va s'organiser l'élection pour les conseillers municipaux après 3 cycles électoraux organisés en RDC. Qu'est-ce qu'un conseiller municipal et quel est son rôle? Élément de réponse dans ce reportage signé Esther Ndalafina.
Commençons par dire que le conseiller communal est élu au suffrage direct, c'est-à-dire il est le représentant élu par la population. La circonscription électorale des conseillers communaux est la commune selon l'article 190 de la loi électorale. Le conseiller communal siège au conseil communal pour 5 ans. Il élit les conseillers urbains et les bourgmestres. Il délibère sur les questions d'intérêt communal, notamment les règlements intérieurs, les problèmes d'hygiène, d'éclairage public, d'entretien des routes, d'autorisation de circulation. Le conseil communal prend des règlements d'administration et de police. Ces règlements ne peuvent être contraires aux dispositions légales ou réglementaires édictées par l'autorité supérieure. Le conseil peut sanctionner les règlements de police des peines ne dépassant pas 7 jours de servitude pénale. C'est au conseil communal qu'on examine les sujets en rapport avec la fonction publique locale, l'organisation des services communaux conformément à la loi, la création et l'organisation des services publics dans le respect de la législation nationale, l'adoption du projet de budget des recettes et des dépenses, l'adoption des comptes annuels, le contrôle de la gestion des ressources financières.
Santé. Au Maïndombe, au moins 3 cas de paralysie flasque aiguë sont signalés dans la zone de santé des Bokoro située dans les territoires de Koutou. C'est le médecin-chef de cette zone qui les déclare lors du lancement solennel mercredi à Bokoro Cité de la campagne de vaccination contre la poliomyélite. Selon le docteur Yves Mpia Mbembe, la paralysie flasque aiguë est un signe de la poliomyélite, une maladie virale dont le seul moyen de lutte reste la vaccination. Il indique que les échantillons prélevés ont été envoyés à l'INRB qui confirme la présence de la maladie pour tous les 3 cas. Raison de l'organisation de cette campagne de vaccination lancée par le bourgmestre de la commune de Bokoro, représenté Irène Boma.
Prenant la parole devant l'assistance à l'occasion du lancement officiel de la campagne de vaccination contre la poliomyélite, le médecin chef des zones de santé de Bokoro a indiqué que la poliomyélite est une maladie d'origine virale qui affecte assez souvent les enfants de moins de 5 ans et qui se manifeste aussi par une paralysie flasque aiguë. D'après le docteur Yves Mpiambembe, la zone de santé de Bokoro située dans les territoires de Koutou au Maïndombe est pour le moment touchée par cette maladie. Cette autorité sanitaire appelle la population à accueillir les prestataires de santé qui passeront de porte à porte pour vacciner les enfants de 0 à 59 mois afin de les protéger contre cette pathologie.
On a plus de 3 cas de poliomyélite et c'est comme ça que nous faisons la campagne de par la voie de la vaccination dans le but de lutter contre la maladie.
Il sied de préciser que pour cette première phase de la campagne qui va durer au 5 août en cours, plus de 50 000 enfants de 0 à 59 mois sont attendus pour bénéficier des dégoûts de VPO dans la zone de santé de Bokoro. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
9e jeu de la francophonie. Jusqu'à la date du 2 août, les para-athlètes congolais ont déjà remporté 2 médailles. Une médaille d'argent obtenue par Chukwuru Mikekeno au lancer des javelots chez les hommes et une autre de bronze gagnée par Mwamini Bahezire au 100 mètres chez les aveugles. Basukila Elisabeth indique que 28 para-athlètes participent du côté de la RDC. S'agissant de leurs résultats, elle n'est pas totalement satisfaite, même si la compétition continue. Basukila Elisabeth, entraîneur des Léopards, est au micro de Fulbert Balolagi.
C'était ma détermination. Ce n'était pas une équipe qui était déjà formée depuis très longtemps. C'est une équipe que j'ai pu préparer dans 4 mois que je l'ai préparée. C'est de la ville de Kinshasa, là où il y avait au moins 13 athlètes. Mais ils ont vu qu'à la francophonie, il faut qu'il y ait une équipe des paralympiques. Maintenant, on a dû envoyer dans toutes les provinces les invitations pour que les paras puissent venir participer. Normalement, on devrait y être à 35. Vu le transport, ça a dû donner un peu de retard. Nous avons obtenu la médaille d'argent en javelot et puis la médaille de bronze pour aveugle pour le 100 mètres.
Est-ce que vous êtes satisfaite?
Pas du tout, puisque la compétition continue. Il y a le 200 et le javelot, le 100 longueur qui est resté pour le T11, T13 et puis il y a encore le 200 mètres qui sont restés pour la course de vitesse pour les deux athlètes qui vont prendre le pas.
Actualité internationale.
Toujours retenu par les militaires putschistes dans sa résidence, le président nigérien Mohamed Bazoum, renversé le 26 juillet, indique que le coup d'État au Niger pourrait avoir des conséquences dévastatrices pour le monde et faire passer l'ensemble de la région du Sahel sous influence de la Russie via les mercenaires du groupe Wagner. J'appelle le gouvernement américain et l'ensemble de la communauté internationale à aider à restaurer l'ordre constitutionnel, ajoute-t-il.
L'invité.
L'Association nationale des victimes du Congo, ANVC, appelle à l'allocation des fonds en faveur des victimes. Invité de Radio Okapi, le président de cette structure, Mira Moulamba, est d'avis que cette assistance financière facilitera leur réinsertion socio-économique. Pour lui, il est important que le gouvernement dote des moyens nécessaires le Fonds national des réparations des victimes des violences sexuelles et autres crimes graves, FONAREV, afin de l'amener à traiter les dossiers des victimes avec célérité. Mira Moulamba s'entretient avec Blaise Nongala Mayanda.
Bonjour Miran Moulumba.
Bonjour.
Sous le haut patronage du chef de l'État, l'Association nationale des victimes du Congo a organisé ce 2 août à Kinshasa la journée d'hommage à ses membres. Pourquoi avoir organisé cette manifestation?
Cette activité s'inscrit dans le cadre de la récente loi qui venait d'être promulgué par le magistrat suprême, Félix-Antoine Tshisekedi, la loi portant protection et réparation des survivants de violences sexuelles et les victimes de crimes graves. Il est vrai, c'est le couronnement des immenses sacrifices dégagés par toutes les victimes de la République au lendemain de plusieurs atrocités perpétrées dans plusieurs parties de la République qu'il fallait absolument, en cette période, doter aux victimes de la République un cadre légal pouvant leur permettre à pouvoir garantir la protection de leurs droits, pourquoi pas aussi de leurs devoirs. Et là, c'est dans son article 28, il est consacré une journée d'hommage aux victimes. C'est une journée fatidique pour toutes les victimes de la République du Congo. Dans les années 94 jusqu'à ce jour, nous enregistrons plus de 10 millions de morts sur toute l'étendue de la République qui ont été fauchés dans leurs droits, notamment par certaines personnalités ou certains États voisins, à cause, n'est-ce pas, de l'exploitation illicite de matières minérales. Avec la mise en place du Fonds national de réparation en faveur des survivants de violences sexuelles, il est prévu absolument que la vérité doit être connue pour montrer, n'est-ce pas, toute la population pourquoi est-ce que le Congo connaît absolument tout ce qu'il est en train de connaître en termes d'agression qui se dégage par l'exploitation illicite de ces matières minérales.
Comment faire triompher cette vérité que vous évoquez souvent dans vos interventions?
Il fallait que les enquêtes soient diligentées et c'est notamment l'apanage qui revient au bureau du procureur près de la Cour pénale internationale qui venait d'être saisi par la République du Congo relativement à l'agression dont le Congo serait buté par le Rwanda, en vue d'établir les responsabilités des uns des autres, poursuivre conformément au statut de Rome et remettre, bien entendu, toutes les victimes dans leurs droits. Il fallait aussi envisager des mesures réparationnelles.
Quelles sont ces différentes mesures?
Dans le cadre de la justice transitionnelle, il est vrai que l'on puisse procéder à allouer une indemnisation financière aux victimes pour leur permettre la réinsertion socio-économique, pourquoi pas le relèvement communautaire aussi. Il fallait aussi procéder à la construction des différents monuments mémoriaux dans les différentes villes de Beni, notamment
les villes martyrs.
Dans villes martyrs absolument, pourquoi pas à Kisangani, mais aussi
à Kananga,
au Kasai. Il fallait aussi apporter de mesures réparationnelles collective.
Quoi faire par exemple?
On peut doter, n'est-ce pas, à certaines provinces touchées par ces affres, notamment de certaines écoles, des hôpitaux, de grandes routes. Je trouve que ça fait partie des mesures réparationnelles et une manière, n'est-ce pas, de réduire sensiblement les frustrations de victimes des différentes provinces qui ont été fauchées dans leurs droits.
Alors si on vous demandait de dresser les priorités du fonds, que diriez-vous?
En termes de priorité dans le cas d'espèce, les victimes ont absolument besoin d'une indemnisation financière. Et l'indemnisation financière va devoir permettre aux victimes de pouvoir entreprendre des activités génératrices des revenus. Parce que là, il se pose un problème. Si aujourd'hui, que le Fonds national des réparations adopte certaines prestations qui ne rentrent pas dans l'intérêt supérieur des victimes, vous imaginez, nous risquerons de victimiser encore de plus davantage les victimes. Donc, il est impérieux qu'avec la mise en place de cet établissement public, de pouvoir travailler de commun accord avec l'association des victimes qui doit comprendre absolument quels sont les besoins réels que je viens de dégager maintenant, notamment l'indemnisation financière, mais pourquoi pas aussi des activités qui doivent rentrer dans la satisfaction des besoins d'intérêt général.
L'association des victimes du Congo est satisfaite de l'événement de ces mercredis. Alors, quelles sont ses perspectives d'avenir?
Nous voudrions exhorter au gouverneur de la République. C'est vrai, c'est pas la première fois. Le commandant suprême, le magistrat suprême en a donné le ton. Il a interpellé absolument les ministères sectoriels, notamment le ministère des droits humains, qui gère le Fonaref. C'est ici l'occasion aussi de veiller la conscience du ministre Fabio Sopoela, pouvoir doter, bien entendu, les moyens conséquents à ce Fonds national des réparations. Parce que Fonaref doit absolument apporter des réparations aux victimes qui ont été fauchées dans leurs droits dans la période comprise entre 1993 jusqu'à ces jours. Fonaref venait d'être créé avec un grand retard parce que, avec la mise en place de ce Fonaref avec un grand retard, si le pied n'est pas appuyé sur l'accélérateur, les prestations qui seront menées seront profitables à qui? Donc, il est temps pour
aux familles des victimes et non aux victimes.
Parce que dans le cas d'espèce, la prestation, les prestations doivent absolument revenir à ceux-là qui ont subi directement le préjudice.
Miran Moulumba, le plaisir était le nôtre de vous avoir dans ces studios de Radio Kapi.
C'est à moi de vous dire merci.
Notre invité répondait aux questions de Blaise Ndongala Mayanda. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal coordonné et supervisé par Alain Rungmouchins et mis en onde par Alain Goy. Vous pouvez les réécouter sur notre site internet www.radiocapi.net. Merci.